Donc, bienvenue à la dernière table ronde de ce petit cycle de deux jours sur le thème de la mythologie du chasseur de vampires. Donc, nous sommes avec Jean Marigny, qui est un chercheur émérite dans le domaine en particulier du vampire dans la littérature anglo-saxonne. Jeanne Adébat, qui est coupable de plusieurs nouvelles, incluant un vampire de deux romans. Le dernier est disponible en exclusivité au Salon du Vampire, c'est l'héritière, sur le stand d'ActuSF. Icam, qui a écrit un cycle, La chronique des striches, qui est encore en cours. Voilà. Et enfin, Fanny Clavel, qui a écrit plusieurs choses sur les vampires, dont Le miroir aux vampires, qui m'a intéressé particulièrement quant aux chasseurs. Voilà, donc je vais vous poser quelques questions. Pour débuter, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un mythe pour le chasseur de vampires, ou même d'un mythe littéraire, comme on pourrait en parler pour Dracula. Peut-être d'une figure de l'imaginaire littéraire. En tout cas, s'il s'agit d'une figure fantastique ou d'imaginaire, peut-on dire qu'il y a des motifs récurrents qui sont attachés aux chasseurs? Quels sont-ils? Et dans ces réécritures, dans les réécritures de Van Helsing, quels sont les lieux, les objets, les personnages, les motifs récurrents autour du chasseur? Qui veut répondre?
Je passe le micro. Je me dévoue.
Je pense que le chasseur de vampires, de toute façon, c'est un personnage qui est tout à fait central dans la littérature fantastique, et pas seulement dans les histoires de vampires. Parce que dans le fantastique, qu'est-ce que c'est au fond le fantastique? C'est une confrontation entre l'irréel et la réalité quotidienne. C'est-à-dire que si, je ne veux pas revenir sur les thèses de Todorov, qui sont bien connues, mais si il n'y a aucun ancrage dans le réel, on tombe tout de suite dans le merveilleux et non plus dans le fantastique. Donc il faut toujours, dans un récit fantastique, qu'il y ait quelqu'un qui nous ramène à la réalité. Et en général, ce personnage est un scientifique. Un scientifique, un personnage qui représente la pensée logique, scientifique. C'est souvent un médecin. Dans beaucoup de récits fantastiques du XIXe siècle, vous avez un médecin qui est confronté à des phénomènes absolument extraordinaires, qui essaie de les résoudre avec sa logique à lui, avec sa médecine, jusqu'au moment où il s'avoue battu parce qu'il est dépassé. Et dans les histoires de vampires, on a exactement ça, c'est-à-dire un personnage, c'est souvent un médecin. Ça peut être un militaire aussi, par exemple, dans Carmilla, c'est le général Spitzdorf qui joue ce rôle. Mais il y a toujours un personnage qui représente la logique, la pensée logique, rationnelle, etc., et qui interroge le vampire ou le personnage surnaturel pour voir ce qu'il est. Et en général, il est battu. Dans Dracula, par exemple, Van Helsing commence le roman en tant que médecin. Donc il est appelé au chevet de Lucy en tant que médecin. Et donc il a la réaction d'un médecin classique. C'est-à-dire qu'il est devant une personne qui souffre, il essaie de trouver des remèdes. Et puis peu à peu, on sent que ces remèdes sont de plus en plus extraordinaires. Essayer de guérir une malade en mettant des fleurs d'ail dans sa chambre, c'est pas dans la pharmacopée traditionnelle, ça. Et puis, il y a un moment dans le roman où il avoue que, finalement, on a affaire à un personnage surnaturel, et donc il faut le combattre avec les armes du surnaturel. Et il dit une phrase qui est tout à fait étrange pour un homme de science et pour un médecin. Il dit que c'est à la superstition d'abord qu'il faut faire confiance. Hein. Donc, moi, personnellement, si mon médecin me disait ça, je ne sais pas si j'aurais extrêmement confiance. Donc le personnage du scientifique, du médecin ou du chasseur de vampires est là pour nous ancrer dans la réalité et en même temps pour nous montrer que les événements qui vont être relatés appartiennent au domaine du surnaturel.
Alors, d'une certaine façon, tu dirais que la mythologie du chasseur de vampires, en fait, c'est le positivisme.
Ouais.
Et qu'il est battu en brèche par le vampire, cette mythologie. Ça me fait penser, mais de façon concaténation, pas en lien direct, à une chose qui m'avait fait beaucoup sourire dans Stephen King, notamment dans Salem, où il y a une épidémie de vampirisme, si je me rappelle bien. Et tout le monde échoue à la jugulée, notamment le prêtre protestant. Et alors, à ce moment-là, la réaction des héros, c'est de faire appel à la vraie religion de base, celle qui a eu affaire aux vampires depuis le départ, à savoir le grand diable catholique, qui, lui, sait traiter les monstres. Et j'avais trouvé ça très rigolo et assez révélateur aussi. Et je l'ai retrouvé plusieurs fois dans des récits fantastiques américains. Ce truc où la religion là, de basique de tout le monde, ça allait bien pour le quotidien. Mais lorsque on avait affaire aux vrais emmerdements, il fallait tant pis, pactiser avec le Vatican. Quoi. Donc, l'autre monstre.
Moi, je vais revenir sur ce que disait Jean, effectivement, dans Bram Stoker, qui est... impressionnant, c'est on va dire comment Van Helsing retourne sa veste, qui passe du scientifique à il défend finalement après les thèses religieuses. C'est quelque chose qui peut se comprendre à l'époque de Bram Stoker. Aujourd'hui, ce serait plus difficile à faire passer une telle, on va dire, une schizophrénie brutale. Ce qui est intéressant dans le chasseur vampire, c'est effectivement qu'il véhicule des idées religieuses, des idées conformistes, des idées parfois quand même allant jusqu'à la discrimination. Et c'est finalement le chasseur vampire cristallise sur sa personne tous les désirs d'ostracisation, de faire sortir le monstre de la société. Ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est de s'interroger, savoir maintenant comment on pourrait utiliser les armes de la religion pour combattre quelque chose qui finalement est du domaine du merveilleux, du surréalisme, de l'irréel. Comment, avec la science, on pourrait combattre quelque chose qui n'existe pas.
Oui, alors justement, pour continuer sur cette évolution du vampire et du chasseur de vampires, moi, j'ai un peu l'impression que le vampire actuellement, il est sorti un petit peu du domaine du fantastique. C'est-à-dire qu'on peut en arriver à des univers comme True Blood, où les vampires existent, leur existence est révélée, et tout le monde l'accepte comme un fait tangible. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le doute entre réel et irréel. Et à partir de ce moment-là, le chasseur change aussi. C'est-à-dire qu'on n'a plus quelqu'un qui est un scientifique. Hein, les scientifiques peuvent aider, mais en arrière-fond, ce n'est pas les héros. Et le chasseur va se spécialiser plutôt dans des formes de combat. C'est un combattant, c'est un guerrier, c'est un flic en fait. C'est quelqu'un qui remet de l'ordre, mais dans la société, et pas forcément entre le réel et l'irréel.
Je viens de penser une chose, en fait, le chasseur de vampires me fait énormément penser, y compris dans le cadre que je viens de définir Fabien, au psychiatre, qui ramène le fou dans la normalité consensuelle, on va dire. Et de ce point de vue-là, effectivement, il casse la subversivité du vampire. Et effectivement, c'est un flic psychique.
Oui, je voulais, à propos de Van Helsing, je voudrais rappeler une chose qui m'a toujours paru très bizarre en lisant le roman. C'est que, j'en parlais d'ailleurs hier à la première table ronde, c'est que Van Helsing vient de Hollande. Il est donc luthérien. Hein, il est luthérien. Or, qu'est-ce qu'il utilise comme arme contre Dracula ? Il utilise des hosties consacrées. Or, les luthériens ne croient pas à la présence réelle du Christ dans l'hostie. Hein. C'est-à-dire qu'il utilise en fait la religion catholique comme une espèce de magie blanche pour combattre la sorcellerie, ce qui est tout à fait curieux. Hein. Et ça n'a pas été, au début, ça n'a pas été relevé par les lecteurs à l'époque des lecteurs contemporains de Bram Stoker.
Combattre le monstre, il fallait s'abaisser au rite.
Voilà, c'est ça.
Et quitter la sphère de la spiritualité pour redescendre vers le rite.
Donc, parlez-nous, s'il vous plaît, maintenant, de vos chasseurs. Donc, vous pourrez commencer... sauf s'il y a un volontaire. Ben, Jean, il n'a pas fait de fiction en principe, il fait quelques nouvelles sur les vampires, mais ça ne peut-être pas... Pas du tout, ben. Je sens que tu as envie de parler. Voilà. Tu as des chasseurs. Qu'est-ce qui conserve des motifs de Van Helsing? Ou est-ce que tu t'es fondé sur totalement autre chose? Que gardent ces chasseurs de Van Helsing?
Alors moi, effectivement, j'ai repris un petit peu le motif du chasseur en essayant de le modifier. Alors j'ai fait deux approches différentes. J'ai un cycle, une trilogie jeunesse qui s'appelle Le miroir aux vampires, où les vampires sont quand même plutôt une espèce magique. Et où en fait j'ai essayé d'imaginer qu'il y avait plusieurs. Enfin, que les vampires avaient eux-mêmes un prédateur qui s'appelle les striges étant considérés comme également des formes de vampires. Et c'est un peu, si vous voulez, l'oiseau de proie et le serpent. Hein, c'est, donc les striges mangent les vampires qui mangent les humains. Et donc du coup, le vampire lui-même retombe dans la chaîne alimentaire, non pas comme je disais tout à l'heure. Un intervenant avec l'homme qui prédate son propre prédateur, mais effectivement on retombe dans une chaîne tout à fait classique, sachant qu'ici le héros étant une strige, on se pose toujours la question de savoir elle-même indirectement est un prédateur de l'être humain qui lui est carrément poussé en dessous. Donc ici c'est quelque chose un peu de quasiment biologique, hein, y a pas d'histoire de science, il n'y a pas d'histoire même de technique particulière, c'est une forme d'instinct et une question de survie. J'ai abordé le thème d'une façon qui n'a rien à voir, en tout cas j'espère, avec Homo Vampiris, qui est plutôt donc sur le versant de la science-fiction, qui se passe dans les années 2050, avec des gros problèmes de climat notamment, et on se pose la question de savoir, mais comment l'humanité va-t-elle survivre à de tels bouleversements climatiques? Et il y a deux réponses qui se présentent. Il y a les scientifiques qui disent mais on n'a qu'à booster l'être humain, comme ça il va mieux résister à ces nouvelles conditions. Et ben oh dis donc, il y a un truc qui s'appelle les vampires, et bien si on allait leur piquer un peu de patrimoine génétique pour booster notre être humain, donc ils courent après les vampires pour essayer de récupérer du matériel génétique pour mener à bien leurs opérations et créer peut-être une autre espèce éventuellement qui serait mieux à même de survivre. Et de l'autre côté il y a l'explication religieuse disant que bah, voilà, si le climat se casse la figure, c'est parce que Dieu le veut ainsi, c'est la fin du monde qui arrive bientôt, mais quand même les vampires c'est une des incarnations de la fin du monde, il faut s'en débarrasser, et donc on va les tuer aussi. Et du coup les vampires dans ce cadre-là se retrouvent poursuivis par deux idéaux, l'un scientifique et l'un religieux, et ils sont coincés entre les deux. Voilà, donc du coup finalement je m'aperçois que dans les deux cas, j'ai coincé mes vampires entre deux entités, pas forcément agressives, mais c'est une créature intermédiaire.
Alors, en ce qui me concerne, la figure du chasseur vampire m'intéresse assez peu. Désolée. Ce qui m'intéressait le plus, dans les chroniques des striges, les Majtou principalement, c'est l'aspect... religieux, de ce que véhicule la religion par rapport aux vampires. Et dans les Majtou, le seul moyen que les Vatican a trouvé pour lutter contre les vampires, qui sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts que les humains, et physiquement, et on va dire même psychiquement, ils ont une volonté beaucoup plus dure, c'est de faire appel à un vampire qu'ils ont ordonné prêtre, mais qui n'y croit pas. Par contre, physiquement, il est au même niveau... on va dire de combativité, et il est aussi retors que ses adversaires.
Moi non plus, j'ai pas trop travaillé sur la problématique chasseur-chassé. Mon vampire, en fait, est un chasseur, a été longtemps un sbire du Vatican. Il poursuivait
ses congénères lorsqu'ils dépassaient les bornes. Pas en tant qu'espèce, hein, seulement s'ils se faisaient remarquer par un peu trop de massacres, un peu trop visibles et trop joyeux. Dans ce cas-là, les cénacles vampiriques et le Vatican se mettaient d'accord pour se débarrasser de l'andouille qui rompait la discrétion millénaire. Mais ça n'est pas et ça n'a jamais été la vraie problématique de Navarre, qui, comme je le disais à la table ronde précédente, c'est d'aller faire la fête avec ses copains le soir et éventuellement de ramener un poulet ou une poulette dans son lit, parce qu'il n'est pas... Au bout de 500 ans, l'hétérosexualité manque de fantaisie. Donc c'est un personnage qui est plutôt centré sur ses plaisirs à lui, des plaisirs minuscules comme la première gorgée de bière, et dans le sang finalement, n'est pas la première préoccupation. Il a des problématiques morales qui sont de ne pas tuer des gens qui ne sont pas capables de se défendre. Mais c'est pas tellement moral, c'est juste que c'est pas fun. Au final, c'est quelque chose qui... La morale intervient un peu dans les actes de Navarre, c'est est-ce que c'est drôle ou pas? Est-ce que ça fait jouir ou pas? Et voilà, donc le chasseur, c'est pas son problème. Cela étant, il y a des chasseurs qui courent après Navarre, mais ils les regardent de loin et ils se marrent du haut du château Saint-Ange. Voilà.
Alors moi, évidemment, je suis très mal placé pour parler de mes propres chasseurs de vampires, puisque je suis le seul de nous quatre à ne pas être un auteur de fiction. J'ai cependant publié deux nouvelles. Dans la première, il n'y a pas de chasseur de vampires, hein, puisque c'est l'histoire d'un homme qui vampirise sa femme et qui s'aperçoit qu'il est devenu un vampire et qui va tenter de se suicider. C'est pas très gai comme histoire. Et la deuxième, dans la deuxième, en revanche, il y a un personnage qui pourrait se rapprocher du chasseur des vampires. Cette nouvelle qui s'appelle Anniversaire raconte que dans une fête d'anniversaire, une petite fille est tuée dans des circonstances absolument affreuses et un petit garçon disparaît mystérieusement. Et donc c'est la police qui cherche, c'est la police donc qui va jouer le rôle d'enquêteur. C'est un inspecteur de police qui va jouer le rôle d'inspecteur. Et à la fin de la nouvelle, évidemment, il va s'apercevoir que l'auteur du crime n'est pas du tout un vagabond comme il le pensait, mais le petit garçon qui était un vampire. Donc c'est par le biais de la fiction policière que j'ai réutilisé le thème du chasseur de vampires.
Mais l'enfant monstre, ça marche toujours. Ça, c'est... C'est toujours très, très terrifiant.
Oui, juste pour revenir sur le côté flic, effectivement, je me rends compte en écoutant Jean que le seul personnage commun à mes deux romans, mes deux cycles, c'est effectivement le même inspecteur de police qui enquête à chaque fois et qui, d'une certaine manière, forme aussi une figure du chasseur.
Quand on parle de flic, en fait, Navarre est un flic. Voilà, je viens de m'en rendre compte. C'est même plutôt un détective privé qu'un flic, hein, puisqu'il en a tous les défauts, y compris le whisky, et la blonde, sublime. Il y a notamment des nouvelles de Navarre où ça n'est qu'une enquête policière pour savoir qui a tué, qui a tenté de tuer la future présidente du système solaire. Et voilà.
Chasseur de vampires, parce que c'est une sorte de vocation, parce que c'est le sort. Quelle est la genèse, l'enchaînement d'événements peut-être, qui fait qu'on devient chasseur de vampires?
C'est juste pour dire une théorie, on ne naît pas chasseur de vampires, on le devient.
Oui, j'en viens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est en général quelqu'un qui se trouve confronté une situation impossible et qui, par force, essaie de trouver, de deviner et devient, ipso facto, chasseur de vampires, hein, sans le savoir d'ailleurs, hein, parce qu'il saura qu'il est chasseur de vampires qu'à partir du moment où il aura découvert que le personnage qu'il recherche est un vampire. Hein. Au début, il cafouille un petit peu, hein, donc, sauf dans certaines ressuscés de Van Helsing moderne, où, alors là, on sait dès le début du roman que c'est Van Helsing et qu'il va chercher des vampires, qu'il va essayer de traquer des vampires. Hein. Ce qui est assez curieux, d'ailleurs, puisqu'on parlait de fiction policière, c'est qu'on a souvent confronté dans un certain nombre de romans Dracula et Sherlock Holmes. En inversant parfois les rôles, hein, où c'est Sherlock Holmes qui joue le rôle du méchant et Dracula qui joue le rôle du bon détective.
Il y a une bande dessinée notamment qui n'est pas très très bonne du point de vue de Sherlock Holmes, mais qui n'est pas si mauvaise du point de vue des vampires, qui est vraiment pas mal là-dessus, où effectivement Sherlock Holmes se retrouve avec une invasion de vampires particulièrement puissante à Londres, et au final Moriarty dans le coup, évidemment. On ne sait pas bien finalement qui est le plus monstrueux là-dedans.
Pour revenir sur comment on devient un chasseur de vampires, bon, comment on devient un vampire, ça met quelques indices. Il suffit de se faire mordre. Par contre, comment on devient un chasseur de vampires, enfin, la figure que j'ai en tant que dans mon cycle, mon chasseur de vampires étant lui-même un vampire, il décide de s'allier au Vatican après la Deuxième Guerre mondiale. Après plusieurs années de camp de concentration et de geôle, il a perdu un peu les pédales. Donc il accepte d'aider le Vatican. Le Vatican qui d'ailleurs a été traumatisé lui aussi par la Deuxième Guerre mondiale et qui voit les choses un peu différemment. C'est-à-dire que finalement tuer le vampire, c'est plus le but, c'est il faut l'éloigner de l'espèce humaine, mais le tuer, c'est plus nécessaire. Donc faire appel à un vampire pour ranger ses camarades au fin fond de la Roumanie, au fin fond d'un placard, oui, aussi. Effectivement, et du coup, je rejoins ce que disait Jean, pour arriver à... Alors dans le cas de Faye Kalamedo, qui est un Nosferatu, pour arriver à se retourner contre les siens, il faut quand même avoir reçu plusieurs gifles.
Je m'aperçois en t'écoutant que finalement, lorsque les vampires pourchassent les vampires, il y a souvent le Vatican derrière.
Oui.
Et voilà, il y a une espèce de cristallisation là-dessus qui rejoint finalement le coup de Van Helsing qui sort des hosties, Stephen King qui appelle le curé catholique dont tout le monde se fout. Mais alors pendant toute la première partie du... C'est un vieil Irlandais alcoolique et son église est quasiment déserte, mais c'est quand même lui qui va débarrasser Salem. Enfin, avec l'aide des héros qui vont le secouer un petit peu et le dessouler, mais en gros, le vrai chasseur de vampires, celui qui va donner l'impulsion de la disparition, de l'infestation, parce que c'est très souvent vécu comme une épidémie, évidemment, c'est quand même le vieux curé catholique, le Vatican. On revient toujours au Vatican. Pourquoi le vampire arrive du Vatican finalement, et même du chasseur? Finalement, on devrait s'interroger sur la façon dont nous percevons l'Église catholique par rapport à l'Europe. Et voilà, et là je vais m'arrêter là.
Oui, ouais.
Il faudrait peut-être ajouter une chose, c'est que l'optique des auteurs anglo-saxons n'est pas la même que la nôtre. Hein. C'est-à-dire que pour nous, qui sommes dans un pays en majorité catholique, l'Église catholique représente la norme. Alors que tout au contraire, dans les pays protestants comme les États-Unis, par exemple, de Stephen King est issu, la religion catholique, c'est la superstition qu'on est considérée souvent comme une sorte de superstition. Alors, il y a une chose qui est intéressante dans le roman de Stephen King que tu as cité, c'est que le prêtre brandit à un moment du livre, le prêtre brandit un crucifix, et comme sa foi est vacillante, ça ne suffit pas pour écarter le vampire. Et à un moment donné, il a une inspiration divine, si j'ose dire, et à ce moment-là, le crucifix devient comme un bâton en néon, quoi, et à ce moment-là, le vampire recule.
On est dans Moïse, là, oui, carrément.
Tout à fait, oui.
Je disais, on est dans Moïse qui ne croit pas en l'ordre de Dieu et qui rate la démonstration tant qu'il n'a pas fait comme on lui a dit. Ce qui est intéressant, en fait, c'est quand même cette espèce de hiérarchisation des croyances qui fait qu'au final, ils auraient très bien pu se retrouver carrément à invoquer Zeus sans problème, contrôler l'ami. Il y a une espèce de logique de l'ancienneté qui donne la légitimité à se battre contre les créatures anciennes. Il y a peut-être aussi ça comme mécanisme inconscient de l'utilisation de la religion catholique. Au final, on retrouve ça assez fréquemment dans les textes fantastiques anglo-saxons. C'est on retourne aux grands anciens, sans parler de Cthulhu, évidemment. Lorsque le mal arrive, il vient de la nuit des éons, et on utilise les armes qu'on avait à cette époque-là, sinon ça ne fonctionne pas. Et même les sex machine guns dans Salem, ça ne fonctionnerait pas.
Moi, je pense qu'en fait, on utilise la religion comme on utilise la loi. D'ailleurs, la religion, ce sont les premières lois qui ont été édictées par les hommes. Il fallait une caution divine, parce qu'à l'époque, les gens ne se tenaient pas tranquilles s'il n'y avait pas un grand méchant barbu au-dessus de leur tête. Mais c'est vrai que l'utilisation de n'importe quelle religion, finalement, comme l'utilisation de n'importe quelle norme, comme l'utilisation de n'importe quelle loi par rapport à quelqu'un de subversif qui ne tient pas tranquille, n'importe quelle religion ou n'importe quelle loi peut fonctionner. Mais il faut quand même derrière une conviction. Il faut une stature qui permet de se mettre en face de la personne, enfin, du vampire, et de dire, mais moi, c'est moi l'autorité. C'est la figure autoritaire, la figure du père.
Alors, pour aller dans ton sens, effectivement, puisqu'on parle de barbe, enfin, ça n'a rien à voir, mais... dans l'histoire d'Homo Vampiris, la secte millénariste qui est devenue une église tout à fait respectable, enfin, respectée en tout cas, est justement une espèce de fusion des trois grands monothéismes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les catholiques, enfin les chrétiens d'un côté, les musulmans de l'autre, les juifs de l'autre, en fait il y a vraiment une espèce de triade qui permet de poursuivre tout ça. Et donc effectivement la figure de la loi est une, enfin c'est une espèce de trinité avec plusieurs confessions, multiconfessionnelles. Et de l'autre, pour repartir sur l'autre cycle que j'ai fait, donc dans Miroir au vampire, c'est vraiment l'histoire familiale qui conduit mon héroïne, puisqu'elle découvre qu'elle appartient aux striges, etc., qui la conduit à devenir chasseuse de vampires. Donc soit il y a l'incarnation de la loi un peu patriarcale d'une certaine manière, et de l'autre, c'est une loi presque familiale. Sauf que là, d'ailleurs, moi, je l'ai plus orienté du côté féminin, puisque c'est sa mère qui pousse plutôt. Le père est complètement à la masse dans cette histoire. Il refuse d'y croire. Qui conduit le personnage à devenir chasseur.
La question de la religion, quand même, elle est centrale dans mon univers, puisque, en fait, j'ai décidé que tout existait. Toutes les mythologies étaient valides et que tous les dieux que jadis l'humanité avait rêvé s'étaient mis d'accord dans une espèce d'immense accord de Yalta pour totalement obscur, invisible et qui fait une bibliothèque entière pour définir, même jusqu'à distribuer les dates célestes pour que fonctionnent certains rituels. Mais dans ces mythologies, il y a aussi l'athéisme. Et il y a toute une réflexion dans Métaphysique du vampire, qui est nommée comme ça justement à cause de ça, où finalement les athées sont les plus zen par rapport à la chose. Ils veulent bien admettre que ça existe quand ils se retrouvent confrontés avec, parce qu'ils sont pragmatiques. Tandis que les religieux, lorsqu'ils se retrouvent face aux artefacts ou aux symboles de leur propre religion, panique complètement. Et donc on a Navarre qui décrit un catholique devant l'apparition d'un ange qui fait carrément une crise cardiaque et ça le fait hurler derrière lui. On est vraiment dans un truc où le vampire a décidé que tout était respectable, en fait. Toutes les façons de composer avec son angoisse de la mort que l'humanité a trouvée, c'était respectable. La seule chose qu'il n'a pas envie d'entendre, Navarre, c'est qu'on a besoin de nos pères pour savoir ce qui est bien ou mal, alors que l'empathie suffit.
On a vu que le chasseur de vampires pouvait se réclamer d'un certain droit, d'une certaine autorité. Le chasseur œuvre-t-il pour le bien ? Celui de quel bien ? Quelle sorte de bien ?
Alors ça va être très court. Le bien, il œuvre pour son compte. Voilà. Le bien, c'est faire plaisir à ses amis. Le mal, c'est s'attaquer à ses amis. C'est quand on est son copain, on est son copain, quand on n'est pas son copain, on n'est pas son copain. Et au maximum, il arrive à l'égoïsme de groupe, mais c'est parce qu'il en fait, il est trop vieux. Il est né dans une époque trop lointaine pour pouvoir accéder à la notion de collectivité qui va arriver plus tard lorsque l'État apparaît. Et ça, il le sait très bien. Donc dans son monde, il a réussi à ne pas être totalement égocentrique et il en est assez content. Voilà.
Oui, alors, en fait, dans le roman canonique pour notre cause, Dracula, on peut dire que Van Helsing voudrait éliminer Dracula, mais il échoue sur tous les plans. Il échoue sur tous les plans. C'est un loser, Van Helsing. Et ce qui est très curieux, c'est que à la fin du roman, celui qui élimine Van Helsing, c'est un personnage tout à fait secondaire. Hein. C'est un Américain qu'on nous a présenté comme un type plutôt ordinaire, sans connaissance particulière. Et c'est lui qui porte le coup mortel à Dracula. Alors que Van Helsing, lui, il n'a fait que des erreurs depuis le début jusqu'à la fin du roman, tout en se présentant comme le dépositaire de la sagesse, de la connaissance, etc. C'est vraiment très, très curieux, ça.
C'est peut-être une tentative, uchronique, de casser la gueule à Todorov. Parce que... voilà, il était pas né, mais dans Bram Stoker, la question du fantastique faisant irruption dans le quotidien, elle est très vite réglée, ça existe. Lorsque on a inventé quelque part la notion de fantastique respectable, c'est lorsque le doute pouvait persister. Mais c'est une tendance qu'on a abandonnée dans les années 90, je pense. Plus personne ne s'est mis à raconter que « Ah mon Dieu, c'était un rêve !» Ou ne se réveille dans son lit, alors j'excerpte quelques marques ici un peu louches, mais qui peuvent être attribuées à de très gros moustiques. Hein, le moustique tigre, par exemple, qui est une vraie sale bête, lui, très bon, bref, pas délirer. Dans Bram Stoker, de Todorov se plante. Enfin, s'il prend en compte Dracula, ça marche pas. Alors, de mon point de vue, en fait, le fantastique de Dorian, ça ne s'applique pas vraiment avec le mythe du vampire, et c'est très bien comme ça. Ça me va. Voilà. C'était une déclaration littéraire.
C'est mon opinion, je la partage.
Voilà, avec moi-même, sans la moindre.
Et si on revient à la question, c'était qu'est-ce que le bien ?
Qu'est-ce que c'était ça ? Moi,
ça me donne très loin. Voilà. Et qu'est-ce que le bien au nom du bien ? Alors, je pense que le chasseur de vampires agit au nom d'une notion de bien collective qui dépend des moments, qui dépend des siècles, qui dépend des cultures, qui est vraiment dépendante du contexte. On peut le voir d'ailleurs, des fois ça peut varier quelque peu, certains types de vampires peuvent être acceptables, d'autres pas du tout. Moi par exemple dans les chroniques des Strige, le vampire qui s'attaque à ses congénères s'attaque à un certain type de congénères qui se tiennent même pour des vampires plutôt mal. Après, ce qui est intéressant, moi ce que j'ai vraiment apprécié, c'était l'idée d'essayer de comprendre il y a le bien d'un côté, il y a le mal de l'autre, et savoir, essayer de s'interroger, imaginer une société dans laquelle, une société vampirique, et savoir comment eux, de leur côté, définissent leur système de valeurs, parce qu'il y en a bien un système de valeurs, et savoir comment ils sont confrontés à l'humanité. Donc c'est pas le bien, le mal, c'est deux systèmes de valeurs différents qui se confrontent. Mais on ne dit pas d'un côté, toi c'est pas bien, et toi c'est bien.
Oui, effectivement, c'est dur aujourd'hui, à mon avis, de présenter un chasseur de vampires qui serait que pour le bien, parce que un personnage comme ça qui arrive en disant « je fais le bien et je suis sûr de faire le bien », on peut à peu près être sûr que ça va être un méchant. Alors, en général, ça fonctionne comme ça, parce qu'il est sûr de sa vérité, il ne doute jamais, et il va finir par faire des trucs absolument horribles au nom de la vérité qu'il défend. Donc, on est poussé, je pense, à faire... vers l'ambiguïté, à se poser des questions, et le vampire justement permet ça, c'est-à-dire que sur la frontière entre l'humain, le monstre, l'humain, l'inhumain, la frontière entre la loi et ce qui en sort, la frontière entre le bien et le mal, et puis c'est toujours la zone grise au milieu, quoi.
Typiquement dans le rôle que tu viens d'établir, on a le personnage joué par Tilda Swinton dans cette histoire-là d'inquisiteur. Comment ça s'appelait pas dans Jarmusch, dans un film assez raté avec Keanu Reeves. Un film assez raté, attends, c'était Constantine, voilà. Où on a un ange qui décide de faire le bien, mais. Le bien, ça consiste à précipiter l'humanité en enfer, quand même. Et on se retrouve avec un héros ambigu et loser. Dans Constantine, oui, c'est Tilda Swinton, qui fait l'archange qui pète un câble.
Oui, alors moi, j'ai l'esprit d'escalier. Je parlais tout à l'heure de chasseurs de vampires qui échouent, hein, et je citais Vanossi, qui n'est pas particulièrement brillant. Mais je pense aussi à un autre chasseur de vampires qui est extraordinaire, c'est Richard Neville dans Je suis une légende, qui se bat contre les vampires à la Kalachnikov et au lance-flamme, hein, et qui, malgré tous ses efforts, est vaincu à la fin. Donc à la fin, la fin du roman est d'ailleurs très ambiguë, parce qu'on ne peut pas dire que c'est le mal qui triomphe, mais en fait, c'est une humanité nouvelle qui naît, et Richard Neville, lui, est simplement devenu une légende, c'est-à-dire il est le représentant d'un monde qui n'existe plus.
C'est lui le monstre. Puisque tu as l'esprit d'escalier, je vais monter une marche. Ça me fait penser à une nouvelle absolument fabuleuse de China Neville qui s'appelle Le poisson du miroir, qui raconte en gros que les vampires étaient en fait des êtres qu'on pouvait percevoir à travers les miroirs et qui ont été enchaînés inconsciemment par l'humanité à leurs reflets. Et coup, alors, les vampires parfois arrivaient à s'échapper des miroirs et c'est là qu'ils vampirisaient l'humanité, mais ils ne tenaient pas sur notre monde très longtemps. Et au final, ils ont trouvé un moyen de traverser le miroir et ils ravagent la terre entière. En fait, cette nouvelle, ça raconte l'arrivée du dernier humain qui va présenter sa reddition aux vampires qui ont gagné. C'est une merveille, cette chose-là. Si vous tombez dessus, en anglais, en français, Le poisson du miroir, il faut la lire. Et en fait, le dernier chasseur va rendre son pieu au poisson du miroir qui est le chef des vampires. Celui-là, il est bien. C'est le seul chasseur de vampires que j'ai vraiment aimé. Mais il avait perdu lui aussi.
Je vais poser une dernière question et puis ensuite on laissera
au public le temps de poser quelques questions pour cette dernière table ronde. Donc c'est une question que avec Jean-Marie on a un petit peu abordée au début de la table ronde. C'est à propos de la connaissance du chasseur. Quel est le savoir du chasseur? Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est de l'érudition? Est-ce que c'est une transmission? Est-ce que c'est un apprentissage? Est-ce que c'est héréditaire, instinctif? C'est quoi la science du chasseur de vampires? Dans quoi ça relève?
Pour la nature, chasse et pêche, encore une fois. La science du chasseur, ça reste, enfin, pour moi, un instinct. Enfin, c'est des gens qui doivent avoir l'instinct de prédation pour s'en prendre soit à des proies, qui elles-mêmes sont des prédateurs. Comme je l'ai dit sur la précédente table ronde, la question du chasseur, de chasseur d'hommes, pose la question deux fois de l'humanité, enfin, de l'humanité de celui qui chasse les chasseurs d'hommes. Donc c'est une question d'instinct et après d'entraînement et ensuite enfin d'armes.
Il y a peut-être tout simplement l'envie d'emmerder le monde, hein, ce qui n'est pas totalement à écarter. Voilà. Non mais là ça devient une manie, on est d'accord. Et ça s'appelle comme ça effectivement, c'est du racisme. On en parlait tout à l'heure avec Jean, il y a quand même cette base de positiviste scientifique qu'on va retrouver chez tous, ou tout au moins une tentative d'avoir une démarche rationnelle par rapport aux événements. Alors le chasseur ne va pas être forcément un savant ou un chercheur, mais il va tenter d'avoir une démarche scientifique par rapport à ce qu'il voit, après avoir éliminé toutes les hypothèses normales. Il va appliquer le rasoir d'Occam et se retrouver face à la seule réponse, celle à laquelle personne n'arrivait à penser, à savoir l'introduction du surnaturel dans le monde où normalement il devrait pas être. Je reviens à ce qu'on disait, la religion du chasseur de vampires, c'est le positivisme, c'est la science, c'est la mythologie du fait que peut-être c'est ce qui nous sauvera. Mythologie que je partage pourtant, mais dans les histoires fantastiques, c'est ce contre quoi on se bat. Parce que c'est réducteur aussi, et c'est essentiellement normalisant. Il doit y avoir une norme qu'on doit respecter, et toutes les histoires de vampires sont en train de vous dire que non, en fait, la norme, c'est ça qui est le mal. Voilà. Si on tend à l'imposer, le mal, il est là.
Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter de plus à ce qui vient d'être dit, mais il est certain que la science ayant échoué, dans le cas de Van Helsing, par exemple, c'est la connaissance qui peut lui permettre de lutter efficacement contre le vampire, c'est les sciences occultes. Hein, c'est vraiment, autrement dit, il doit abandonner sa jaquette de médecin pour devenir... véritablement un chasseur de vampires au plan de l'occulte ou de la magie.
Oui, on en arrive à Buffy du coup, parce qu'on n'a pas parlé de Buffy, excusez-moi, mais faire une table ronde sans Buffy, c'est quand même triste. Même si ça ne porte pas sur le vampirisme, oui, on en arrive à Buffy. Buffy, ça commence quand même par à chaque génération, il y a une élue, et on est complètement dans le culte, puisque elle, sa qualité, ce n'est pas du tout des qualités intellectuelles, ce sont les qualités physiques, de récupération, de force, d'agilité, qui ont une origine occulte. Et ce sont ses amis autour qui vont l'aider, mais on est passé vraiment à quelque chose de quand même extrêmement terre à terre et. Assez loin, j'ai l'impression, moi, du positivisme dans le cas de Buffy, et j'ai l'impression que c'est pas juste Buffy, c'est aussi la plupart des exécuteurs qu'on peut trouver actuellement pour tuer les vampires.
Dans Buffy, tout l'univers démoniaque est très répertorié, Giles, mais c'est pas elle directement, ouais. C'est pas vraiment le chasseur.
Et pourtant, la démarche positiviste,
c'est
ça, dans la...
Elle est dans la nomenclature, dans l'étiquetage. On est pratiquement en train de rédiger une encyclopédie des espèces. quelque part, avec la recette pour s'en débarrasser. Plus, je te dis pas que... Ça c'est vrai, tu as raison. Mais moi j'ai tendance à penser, bon ça c'est peut-être moi, de le faire.
Si on les répertorie pour savoir comment on les tue, c'est pas très darwinien.
Ou alors complètement darwinien,
mais ouais,
bon. Dans mauvais sens.
Donc, qui a des questions? N'hésitez pas. Dernière question sur les chasseurs, sur les vampires. Des questions perso aux auteurs?
Non,
pas perso. Des questions sur leur bouquin. Bon, bah écoutez, on va clore cette table ronde. Bon, les auteurs ne sont pas encore partis, vous pouvez encore venir les voir. Et on va laisser la place à une démonstration de self-défense pour se défendre contre les vampires. Voilà.